pencher, faisant une moue dubitative. Rêve dans le semi-remorque, les fous prennent tous les risques. Au palier va me faire pâlir de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale. Sur ma clavicule, légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi, j'ai tout mon temps, les bras m'entourent. Mais tantôt, je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'adonner à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale.
Tu voulais la mer, donc je te l'ai donnée. Les draps trempés, c'est pas que pour la scéno, moi je suis polisson. Tu me regardes en souriant, le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. À plus tard, on se rappelle. Si je te crois, je te connaîtrai. J'ai même espoir qu'on se reconnecte.
Bonsoir et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle année 2026 déjà, mais surtout dans ce nouveau live d'Ultraviolette, votre radio super. Et ce soir, on est avec Naomi, Max,
hello,
Luna.
Pardon, je suis en train de me retenir de tousser.
et voilà, on a évité les microbes, on est là parmi vous, en tout cas dans vos oreilles. Pour vous souhaiter déjà une très bonne année. On espère qu'elle sera pleine de douceur, de révolte, de joie et de bêtises, parce que quand même, ça fait aussi une vie pleine. Et puis, pour bien commencer l'année, ce qu'on vous propose de faire, c'est déjà... Moi, je me demande un peu ce qu'est le futur de cette radio, quoi. Et je me suis dit, ce qui pourrait nous aider, c'est de peut-être tirer des cartes. Sait-on jamais ce qu'on pourrait y lire, mais peut-être le futur d'Ultraviolette. Et pour ça, j'aurais besoin d'une main innocente, en tout cas, là où on a l'espace de mettre des cartes. Luna, si tu es d'accord, d'étaler ces cartes d'un très bel oracle qui s'appelle l'oracle de Tulipe. Il est fait par une BDaste qui s'appelle Sophie Guérive. Et c'est des super BD très douces aussi que je vous conseille si jamais. Merci. Et le sous-titre de cet oracle, c'est 63 cartes pour tout savoir. Donc j'ai comme l'impression que ce soir, d'une manière ou d'une autre, on va en savoir plus sur l'avenir du V. C'est pas possible autrement. Et puis, pour tous les haters du fond, que je vois venir gros comme une maison, qui seront là genre « Oui, mais de toute façon, le tarot, les oracles, ça dit rien de réel. » Ok, d'accord. Ça dit pas le réel, je veux bien, mais on se raconte tous et toutes des histoires au quotidien. Donc, un peu plus, un peu moins, franchement, ça va.
Si jamais, pour les auditeurs, les bruits chelous que vous entendez derrière, c'est moi qui mélange les cartes. D'abord sur la table, et après, en les battant et en les faisant tomber par terre.
Mais il paraît que ça, ça veut dire que c'est déjà l'univers qui nous parle. Hein, si ça se trouve. Attends, il y en a
je
une
pense
par terre,
que la carte a été tirée par défaut, en fait.
Donc pas de main innocente.
Je pense que la carte a été tirée, ouais.
C'est vrai. Mm-hmm.
Ouais. Donc c'est la seule qui a gagné.
Et nous dire.
Ouah, tu pourrais la retourner parce qu'elle est à l'envers. Déjà, je pense que UV va mettre le monde à l'envers en 2026. On a, purée, c'est incroyable, on a un mouton hyper stylé avec des lunettes de soleil, de star, de mafia, de voilà, on sait pas trop, qui tient un bâton et elle s'intitule le guide. Donc UV, okay. Sera-t-elle guidée? Visiblement, oui.
Où sera-t-on le guide?
Ah. Mm-hmm. Mm-hmm. Ou est-ce qu'on sera un mouton stylé? Attends, quoi? Attends, voilà, des superstars?
On va faire un petit voyage en Irlande.
Hein?
Bah, il y a quoi? Il y a des moutons.
Bon, peut-être pour en savoir un peu plus, ce que je vous propose, c'est qu'on lise ce que ça nous dit dans le véritable petit guide, donc un petit livret. Oui, il y a les cartes. Par contre, je suis désolée, mais là, les chiffres romains, j'arrive pas du tout. Quelqu'un peut me dire ce
qu'il faut
que je cherche?
J'ai ignoré cette partie-là.
Non, c'est 18 pas, oublie, pardon, c'est pas 18. C'est 48.
48, ok.
48.
Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, j'arrive.
Artefilsk, si ça aide.
Alors là, vraiment, autant te dire, j'ai rien eu. Ah, je l'ai. Le guide. Le guide est sûr des lui, souriant. Et plein d'entrain. Il vous promet monts et merveilles si vous le suivez jusqu'au bout du monde. Mais regardez attentivement ses lunettes noires. Ce bâton, est-on bien sûr que ce guide y voit clair? Il se pourrait que vous soyez obligé de devenir le guide de votre guide.
C'est pas éthique.
C'est incroyable.
Qu'est-ce que vous en concluez? Comment vous voyez ça du coup pour Ultraviolette?
C'est un peu ironique, non? On a envie d'avoir une réponse. Et en fait, la réponse, c'est qu'on doit nous-mêmes chercher les réponses et trouver et définir ces réponses. C'est un peu la vie, quoi. Que dire de plus?
Conversation méga philosophique.
Bah, vous, dites quoi?
Bah, je dirais que ça ouvre plus à des nouvelles questions qu'à des réponses, comme tu l'as bien dit. Et... en même temps, qu'il faut guider, mais qu'il faut un peu se laisser guider par la vie. Puis dire oui aux opportunités. On en parlait avant avec Luna un peu. De dire oui.
Effectivement.
Et je pense que si on dit oui, on s'ouvre à la vie. Et puis ça va un peu mieux. Je sais pas.
Ouais, grave. Et en même temps, bah, parfois faire des choix, c'est juste aussi être capable de dire... non, là, c'est vraiment pas mon délire. Je vais pas me laisser guider dans ce chemin caillouteux ou j'en sais rien où. Enfin, tu vois, j'ai l'impression.
Je pense que ça dépend de... est-ce que tu le fais parce que t'as envie de le faire ou est-ce que tu t'empêches de le faire parce que t'as peur de le faire? Et dans ce cas-là, je pense que si c'est de la peur, eh ben, faut apprendre à dire oui. Et c'est mon cas, genre, il faut que j'apprenne à lâcher du lest parfois. Et en même temps, genre totalement, faut en même temps réussir à savoir quelles sont ses limites et à les poser et dire non parfois en fait.
Ouais, grave. Et puis en même temps, bah, je trouve beau que tu dises qu'effectivement, la peur, c'est pas toujours le moteur. Enfin, si elle existe, c'est qu'elle raconte un truc. Et c'est quand même toujours bien d'avoir une petite oreille là-dessus. Mais c'est clair qu'en tant que moteur, c'est pas ça qui est le plus porteur parfois. Mm. Mais et en termes d'envie. Parce qu'on parlait aussi de se laisser guider par ses envies, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous titillent pour Ultraviolette cette année, pour ce qu'on pourrait proposer sur les ondes? Est-ce qu'on aura droit à d'autres chroniques rageuses de Luna, par exemple?
Alors malheureusement, il y a moyen, vu les horreurs que nous préparent les cantons, la Confédération et les autres. Donc ouais. Moi, quand je vois ce mouton, je me dis, se faire guider par un mouton chelou, ça peut être assez marrant. Tu parlais surtout chez les Irlandais, tu parlais de la peur et du fait de pouvoir poser ses limites. Et en fait, pour poser ses limites, il faut quand même affronter une bonne dose de peur, surtout en tant que personnes qui sont soit assignées filles à la naissance, soit qui se reconnaissent comme filles. Ben, en fait, on n'a jamais été éduquées à poser nos limites. Et puis, c'est en général assez récemment qu'on apprend à le faire. Et se laisser submerger par la peur, c'est pas super parce que, comme disait Yoda, la peur du côté obscur te mène.
En fait, c'est peut-être lui le guide, tu vois. Là, on est sur le mouton et tout, mais peut-être c'est Yoda, en fait, qu'on doit suivre. Jamais.
C'est Yoda en cosplay de mouton.
Chiche. C'est tellement bien. Ils m'ont juste les oreilles qui dépassent.
Mm-hmm, de fou.
Et est-ce que, du coup, il y a des envies en particulier qui ont émergé peut-être pendant cette pause, sans vos douces voix sur les ondes?
Alors, moi, j'ai un rêve quand même. Je ne sais pas si c'est pour 2026, parce que c'est un rêve ambitieux et qui signifierait quand même de dépasser pas mal de peurs. Mais je rêve un peu d'un live, live quoi, avec un public. Vous êtes super, restez où vous êtes, mais genre 10 fois plus. Exceptionnel.
Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes autour de nous, merci. Autour de la table à laquelle on est et on parle. Il y a des personnes qui nous écoutent. On espère qu'il y en a aussi ailleurs. Est-ce que vous nous entendez? Enfin, pardon, là, ça fait un peu...
Êtes-vous là? Toquez 3 fois.
Si quelque chose tombe, c'est qu'ils sont là. Ils sont là. Et du coup, un petit live.
Un petit live, genre au Palais des Congrès. Je manifeste ça. Un jour, je pense, on va y arriver. Voilà, ce serait super. Avec des invités, je sais pas, des invités de qualité, des invités surprises, de la musique... plein de choses chouettes, quoi.
Merci la régie.
À chaque fois, ça me fait un bug. Mais voilà. Mais il y a d'autres projets autour de cette table qui sont encore un peu dans les étoiles, mais qui vont peut-être se concrétiser bientôt. Je crois.
Il y a Naomi, pardon.
On est en train de faire des lettres à l'univers. Ouais, alors, le Palais des Congrès. Et donc ?
Oui, j'avais envie de le placer. Le
bah oui,
fallait,
donc,
ouais.
T'as bien fait.
Ben, je sais pas comment annoncer ça, mais en gros, moi, j'avais comme but de faire un podcast avec Ultra Violette, du coup, sur tout ce qui est... En fait, de base, c'est parti de grossophobie, parce que j'étais dans cette période où je me disais, ouais, mais si je suis mince, en fait, j'aurais plus de problèmes dans ma vie, parce que les médecins, tout ça, tout ça. Puis en fait, j'ai une super pote qui m'a dit « Mais Max, si t'es mince, ça va pas changer. Genre, il y a plein d'autres trucs. T'auras toujours des méga crises d'angoisse. Non, ça va pas tout régler d'un coup de baguette magique. » Puis du coup, j'étais en mode « Oh, mais en fait, la solution, ce serait plus d'apprendre à s'aimer. Et puis d'être patient envers soi. Et puis d'apprendre à vivre avec le corps qui est le mien. Et puis de le chérir. Et puis, en fait, il y a plein de trucs qui sont entremêlés à mon rapport au corps, ma confiance en moi, les angoisses et tout. Puis j'étais en mode, ça ferait un super live sur Ultraviolette. Et du coup, voilà, c'est mon projet 2026 et tout.
On a hâte d'écouter ça. Stylé. Franchement, ça serait super de pouvoir avoir ça à Ultraviolette.
Mm-hmm. Oui.
Alors moi pour 2026, alors je ne sais pas si ce sera pour 2026, mais en théorie ça devrait l'être, mais ce serait de faire une collab entre Ultraviolette et les Montagnards d'Aix, qui est l'émanation chaudefenière du collectif Neuchâtelois pour la grève féministe, où on voulait faire aussi des podcasts et interviewer les anciennes militantes qui ont connu la deuxième vague dans les années 70. Et élargir ça au groupe des femmes africaines et des femmes tamiles, histoire de pouvoir aussi qu'elles puissent aussi exprimer leur réalité, parce qu'on ne les entend pas assez. Et j'avais une blague à faire avec Dark Vador, mais
je vois, j'arrive vraiment pas à voir quel lien tu étais en train de faire entre ces collectifs militants et Dark Vador.
Il y en avait pas. C'était par rapport à un truc que Max disait, mais j'ai totalement loupé le truc et c'est trop tard.
Ah, désolé.
Moi, j'espère juste que c'est clair, mais en même temps, je me dis, on a vraiment plusieurs lives déjà programmés dans lesquels on pourra continuer à faire des connexions impromptues de cerveau et et surtout pouvoir parler de plein de sujets, soit tabous, soit qui méritent peut-être un peu plus d'écoute, et puis de pouvoir les aborder avec cette liberté-là. En tout cas, moi, c'est ce que je nous souhaite et ce que je trouve beau avec cette radio et vous. Et puis, ce que j'aimerais bien, je crois, perso, c'est s'il pouvait y avoir... J'avais tenté, en fait. Pour de vrai, il y a eu un essai de fiction radio. Je dois avouer, je m'étais un peu lancée dans une optique de à Noël, là, il faut y aller avec les voix un peu de rom-com et faire un truc bien kitsch, histoire de partir sur cette fin d'année avec des bons sentiments. Et j'avais oublié que j'étais fatiguée, en fait. J'avais juste oublié ce petit détail qui fait que ça n'a pas eu lieu en 2025, mais je croise les doigts, 2026 ne me roulera pas dessus et on pourra faire des voix kitsch de « Mais Johnny, tu m'avais dit que tu ne serais pas au cottage ?» Voilà. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Pouvoir aussi prendre le temps de rire et faire des bêtises ensemble. Voilà. Et puis, tout à l'heure, on parlait d'amour de soi et de choses qu'on se souhaite. Et puis, on va continuer un peu à parler de ça, parce que ça ressemble à une résolution, en tout cas à un positionnement pour soi. Et on en parlera tout à l'heure avec Nao. Mais avant ça, on va faire une petite pause musicale.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez. Et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer.
Et qui s'empêchent de pleurer.
De pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. C'est pour eux c'est compliqué. Et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles elles saignent aussi. Désolée les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
Street. It feels alright. just you. It's already been done, undo it. It takes two. It's up to me and you to prove it.
Radio Ultraviolette, la radio du 14 juin.
Rebonsoir à la radio du 14 juin et de tous les autres jours où on fera un live radio. J'espère que vous êtes toujours parmi nous et que vous avez apprécié ce premier tour de tirage de cartes pour 2026. On reste dans la projection vers 2026. L'année qu'on vient de commencer, et on va passer dans les résolutions. Alors, on peut y aller en mode prom dog, parce qu'on aime bien faire des résolutions. On peut y aller en mode, en fait, c'est un peu du bullshitage, et ça fout la pression, et ça peut tout à fait aussi être un espace pour dire non aux résolutions, finalement. Je suis ici encore avec Sarah, Luna et Maxime. Et on va parler des résolutions, justement, où on peut aussi les appeler, comme Sarah l'a dit avant, les IN de 2026, pour être dans les trends. et je pense que je vais vous jeter à l'eau, et je vais passer en dernier. Comme j'adore le faire venir. Quand je fais cette modération, finalement, je peux faire ce que je veux, ce qui est super. Donc, je vous pose la question tout simplement, est-ce que vous faites des résolutions en début d'année et comment ça se passe pour vous de faire des résolutions?
Bah, moi, perso, j'ai pas de résolution en soi parce que ça me stresse de me mettre en espèce d'objectif. Enfin, j'ai l'impression que la vie, elle est déjà assez complexe comme ça sans se rajouter une couche, une charge par-dessus. Mais je sais ce que je souhaite. Du coup, en fait, je change juste la manière de raconter ça. Mais je sais ce que je me souhaite un peu pour l'année ou d'infuser dans mon année. Et surtout, j'aime bien prendre un temps à la fin de l'année pour regarder ce qui s'est passé et puis voir telle personne, je ne l'ai pas vue. Ah tiens, j'aimerais bien aller lui rendre visite si c'est, par exemple, une amie qui habite loin ou des choses comme ça. Et puis, par exemple, pour cette année, je me souhaite de plus marcher. C'est peut-être bête, mais plus marcher et plus faire une chose après l'autre, au lieu de cuisiner en écoutant machin sur un truc très perso, individuel et nanana.
Sauf si c'est des live UV, attention.
Bah ouais, mais parce que je pense qu'en même temps, si je fais ça dans ma journée, je peux être plus présente pour le collectif, en un sens. Et aussi, juste, je me souhaite du calme. Et que si j'en fais pas dans ma vie perso, j'en aurais pas pour relationner avec les gens, alors que c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Donc là, pour mon année, je me souhaite du calme.
C'est voilà. Super. C'est vraiment super. Je pense que collectivement, ça nous ferait du bien d'avoir plus de calme. Et vous ?
Alors, moi, je suis très résolution, parce que j'aime bien... pouvoir réfléchir à l'année écoulée, mais aussi qu'est-ce que je me souhaite et tout. Et à la place de me dire, genre, je vais 3 fois par semaine au fitness et puis des machins irréalisables que je faisais quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça.
Contrairement à maintenant où tu es très vieille.
Exactement, très vieux.
Très vieux.
Mais pas de soucis. Et du coup, mes résolutions, c'est lire plus. Et puis, de décentrer les hommes cis de ma vie, encore et toujours.
Luna, il y a des approbations dans la salle.
Luna fait des grands signes à côté de moi en mode ouais. Ça fait du bien de les décentrer de sa vie un petit peu. Et ouais, je me souhaite de la douceur, moi je dirais, plutôt que du calme. Vraiment de la douceur, des moments en non-mixité, des moments de joie. Et ouais.
Trop beau.
Voilà.
Alors, ouais, moi, je plus sois sur le fait de décentrer les hommes cis de ma vie et de sa vie en général, surtout parce que lesbienne, je suis.
Bravo les lesbiennes.
Bravo les lesbiennes, comme d'habitude. Et puis, bah moi aussi, j'aime bien faire réfléchir sur l'année écoulée. J'allais dire faire des revues de l'année écoulée, mais non, ce n'est pas des revues humoristiques, c'est juste réfléchir sur l'année écoulée. Et puis, entre le fait de faire des résolutions qu'on doit absolument tenir et le fait de se dire « Ah, mais en fait, je pourrais me souhaiter un truc, je ne sais pas vraiment dans quel camp je suis », mais toujours est-il que ce que je me suis dit, une des choses que je me suis dite pour cette année, c'est de réussir à trouver une espèce d'équilibre entre le plaisir et un truc très chiant dans un sens qui s'appelle la quête de performance quand on fait du sport. Parce que moi, je fais beaucoup de vélo. Enfin, je faisais beaucoup de vélo. Et puis, en fin d'année passée, j'ai assez brutalement plus fait de vélo parce que je faisais beaucoup trop. Pas beaucoup trop de vélo, mais en fait, j'avais beaucoup trop. Et puis surtout, je me disais, ouais, mais il faut que je fasse ça parce que j'aimerais bien réussir. Et puis, je ne réussissais pas et j'étais malheureuse. Et j'aimerais bien réussir à trouver une espèce d'équilibre entre le fait d'avoir du plaisir à faire du vélo et réussir quand même à ne pas être super lance, parce que ce qui est très chiant, c'est quand on se fait dépasser par des mecs cis en basse mobile, surtout quand on fait le chasserelle et qu'ils nous montent comme ça. Puis toi, t'es là. Mais j'ai fait la descente de Saint-Imier et je suis remontée depuis Saint-Imier. Et toi, je ne sais pas d'où tu es partie, mais en fait, j'espère que tu n'es pas partie trop loin. Parce que sinon, je te déteste. Voilà. Il y avait probablement d'autres choses, mais ce n'est pas grave, c'est ce que je vais dire.
Trop stylé. Toi, tu avais une réaction. Moi, j'ai pu réfléchir, mais je voulais d'abord rebondir parce qu'on a eu une petite discussion préalable, évidemment. Et il y avait un peu ce débat de décentrer. Enfin, ouais.
Oui, alors je vois ce que tu veux dire et où tu veux m'amener. Oui. Je vais y aller.
Seulement si tu veux, attention.
Si tu veux que moi j'y aille, sinon.
Non, non, du tout. Avant, quand on discutait et qu'on préparait l'émission, ça n'avait pas tout à fait été formulé comme ça. C'était un peu en mode, je ne sais plus comment c'était formulé. Toujours est-il qu'une de mes résolutions autres, plutôt sur les engagements militants, c'est de discuter avec les gens avec qui je ne suis pas d'accord. Alors, petit disclaimer, ça va de pair avec le calme.
Parce faudrait que, nous expliquer
nouveau,
ça.
C'est que, en fait, je ne peux pas le faire dans n'importe quelle condition. Et puis, je ne pense pas que tout mérite calme, déjà, ni que tout mérite discussion. Et qu'il y a des choses qui sont juste pas tolérables. Mais quand même, s'il y a quelque chose que je me souhaite vraiment hyper profondément, c'est du dialogue. Et vraiment, des fois, ça me rend tellement triste et fâchée. Je trouve dommage de se cloisonner. Enfin, la binarité, on le sait, ça enferme déjà assez. Et si en plus, on finit par être que dans des camps opposés, je trouve ça dommage. Donc, je me souhaite du dialogue ouvert, mais ça demande effectivement de parler, oui, mais qu'il y ait de l'écoute en face, du respect et tout ça. Mais du coup, ça implique aussi de parfois serrer les dents quand il y a des trucs, certes, problématiques. Mais en fait, je veux pas annuler les gens direct. Je veux essayer, en fait. Je me souhaite vraiment fort, je nous souhaite, celles qui veulent, peuvent, d'essayer, en fait, de se parler. Je crois que ça change beaucoup de trucs. C'est un peu dans cette optique-là. Après, ça ne veut pas dire laisser des gens dire des dingouses tout le temps, tu vois. Quand même, tranquille. On a ses limites, hein. On en a parlé avant. Maintenant qu'on sait qu'on en a, autant les utiliser.
Alors que moi, c'est plus l'inverse. Je pense que j'ai beaucoup eu de la patience de dialoguer et tout. Et je suis encore dans cette démarche pédagogique de... Il y a des moments où je sensibilise les gens à certaines thématiques et tout. Et du coup, dans le privé, genre, plus poser mes limites et en fait, juste dire non-stop et d'arrêter de me justifier. Je me justifie en permanence. Et ça, 2026, on arrête de... J'arrête, moi, là, de me justifier. Voilà.
Yes.
Est-ce que tu t'excuses aussi aux meubles que tu pousses? Parce que moi, ça m'arrive et chaque fois, ça me rend ouf. Je suis là, mais attends, mais vraiment, c'est un objet. Enfin,
c'est une table. Je n'ai pas besoin de m'excuser à la table que je viens de percuter.
D'autant plus que c'est toi qui as mal, tu sais.
Oui. Mais en fait, je me sens moins seule maintenant que tu dis ça parce que c'est tellement un réflexe que j'ai.
Bon, tant que tu te justifies pas à la table, c'est déjà bien.
Table, je suis vraiment désolée, je t'ai pas vue, excuse-moi. Non, je me justifie pas à la table.
Sur ce, yes. J'aime beaucoup vos résolutions, puis on voit que ça passe. Enfin, ça peut être des choses très concrètes, ça peut être des choses un peu plus méta. Moi, c'est aussi... Enfin, c'est toujours un peu sur plein de niveaux aussi. Autant il y a des choses concrètes, autant il y a des choses un peu plus méta. Et un truc, c'est à la fois concret et méta, et c'est la première année que je le fais. Et toi, t'as dit, tu veux arrêter de le faire, je crois. Mais je me suis mise à un objectif sport. Et en fait... C'est aussi un peu un test pour savoir est-ce que j'arrive à me mettre un objectif sport sans que ça tourne dans un truc de après je me mets la pression de la performance et tout ça. Et c'est plus dans l'espoir ou dans l'idée de ouais, renouer un peu plus de lien avec mon corps, je crois au final, et de d'être moins dans ma tête et plus dans mon corps. Mais c'est clairement un challenge aussi, ouais, de pas après faire une fixation sur ça ou de pas être trop dur avec moi-même par rapport à ça. Mais ça, je pense que c'est vraiment dans toutes les choses. Et c'est un peu aussi revenu dans ce que vous avez dit. Un autre truc, une résolution hyper concrète aussi, c'est d'aller plus à la bibliothèque. Alors là, c'est à Bienne. Parce qu'en fait, y a plein de livres, il y a plein de BD aussi, super chouettes. Et c'est aussi super important d'acheter et de soutenir des artistes et tout. Après, voilà, on fait ce qu'on peut. Et c'est aussi, ouais, c'est trop bien d'avoir un lieu, en fait, où il y a plein de choses qui se retrouvent. On peut aussi faire des propositions, on peut leur demander d'ajouter certains livres ou certains romans graphiques. Il y a des événements, il y a des trucs super cool. Donc, voilà, je vous invite aussi. Peut-être fera-t-on un live un jour à la bibliothèque de la ville. On ne sait pas.
Ça serait trop bien.
Ça serait trop bien aussi. Des petites lectures. Ouais, bref, je ne vais pas partir trop loin, mais ça va être super. Et un troisième truc qui me stresse un peu, mais que je voulais vous partager, c'est de donner plus de place à l'amour. Et surtout dans des contextes un peu publics ou un peu collectifs, on va dire. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui est une journée très spéciale parce que, avec mon amoureuse qui est à la régie ce soir, Big Up à Leïla, qui est à la régie, donc, on fête nos 6 ans de relation.
Est-ce qu'on chou. Oui. Désolée, on a toutes crié dans le micro. Désolée pour les auditeuristes.
J'ai vu, lui a paniqué.
Mais franchement, c'était mérité. Désolée, mais 6 ans.
Oui, alors c'est pas que la quantité, c'est évidemment la qualité aussi. Et surtout, non, ce que je voulais dire, un peu de sérieux, mais voilà, ça me gêne, donc je fais des blagues, un peu de sérieux. Je voulais te dire, Leïla, que je suis hyper heureuse de notre relation, de notre évolution, des projets qu'on fait ensemble. Et c'est vraiment un plaisir de partager cette vie avec toi. Et j'espère encore pendant longtemps, au moins 6 ans, on verra, on fera un petit bilan. Mais voilà, je t'aime. Et sur ce, on va enchaîner sur la musique et sur la suite. Des bisous.
Je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si j'ai l'air viril, fille virile. Depuis que je suis
gamine. Maman sait que je suis masculine, une fille virile, une fille virile. Paris, je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire, mais comme une fille on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille, marche plus vite comme les autres filles. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si j'ai l'air viril, fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine, une fille virile, une fille virile. Maman sait que je suis masculine, une fille virile, virile, fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine, une fille virile, une fille virile.
Radio Ultraviolette, la radio du 14 juin.
Bonjour, ici Cécile. Aujourd'hui, on va vous présenter Fascisme tardif, un livre d'Alberto Toscano, avec mes trois amis avec qui on vient de passer le week-end à lire ce livre. Donc, on a Dana.
Salut.
Juliette.
Hello.
Et Garo.
Bonsoir.
Je vous laisse enchaîner.
D'accord. Je vais d'abord présenter brièvement cet auteur, Alberto Toscano. Il est né en 77 en Russie, enfin en URSS à l'époque, et il est devenu philosophe et sociologue. Il enseigne maintenant à Londres. Il a déjà publié un écrit sur le fanatisme. Et là, il a sorti ce bouquin, c'était en 2025. On a un peu cherché à comprendre en quelle année, enfin à quel moment exactement il l'avait publié, mais c'était difficile à comprendre.
Mais en tout cas, la première édition anglaise, c'est en 2023. Et après, en France, c'est en 2025 ou 2024. Ouais. C'est assez récent, en tout cas.
Oui. C'était un peu confusant parce qu'il parlait de la réélection de Trump qui a lieu il n'y a pas très longtemps. Bon, bref. En tout cas, c'est un livre qui vient de paraître et dont le nom est murmuré dans les couloirs des milieux autorisés et même dans les brasseries des milieux autorisés. Et on avait remarqué à un moment donné qu'il était en rupture du stock sur le site de la maison d'édition. Donc on s'est dit qu'il avait eu du succès. Et la maison d'édition en question, c'est une maison d'édition qui date de 2015, qui est née à Bordeaux, d'un groupe de personnes bénévoles et qui se place clairement très à gauche dans le spectre politique, anticapitaliste, avec des influences, situationnistes, anarchistes, autonomes. Qui publie des historiens, des penseurs, penseuses de la lutte radicale, en fait. Et voilà, tout ce qu'il y a de plus hype dans un certain milieu d'extrême-gauche française.
Et du coup, moi, j'avais, par exemple, repéré ce livre il y a quelques mois et ça m'avait donné très envie de le lire pour plusieurs raisons. Bon, déjà, le titre est assez intriguant, Fascisme tardif. J'avais envie de comprendre un peu ce qu'il mettait derrière ce terme. Et surtout, sa quatrième de couverture est assez ambitieuse en termes de projet. Et ça répondait à pas mal de mes questionnements. Notamment, c'était un peu, il vend une analyse assez globale du fascisme, de l'extrême droite mondiale. Et il la décrit un peu comme un processus en constante évolution. Et du coup, on dirait que son objectif est de se doter d'outils pour expliquer ce fascisme afin de l'éliminer. Et donc, c'est assez... Ça donne envie, quoi. Et puis, faut dire aussi que la couverture, elle est très, très jolie. Donc, juste, ça donne envie d'avoir l'objet en lui-même. Et donc voilà, on s'est lancé dans cette lecture ce week-end pour ces différentes raisons. Malheureusement, ça n'a pas forcément rempli nos attentes. Et ça, on va vous le raconter maintenant.
Disons qu'en tout cas, on ne s'attendait pas. On n'avait pas compris dans quoi on s'engageait quand on faisait ça.
Hein. Ouais.
On croyait qu'on allait faire ça, boucler ça en quelques heures. Et ça nous a pris un jour et demi. Puis il y avait du sang qui sortait de nos oreilles. Oui,
c'est à peu près ça.
Notre cerveau. En
fait, c'est vraiment de la philosophie pure et dure. On s'est dit, bon, peut-être ce sera un essai politique. Et déjà, c'est un gros projet en soi que de lire un essai politique. En fait, c'était vraiment un essai philosophique d'un philosophe qui étudie des textes de philosophes. Et
même, c'est un essai, mais c'est aussi plutôt une anthologie où il va repiocher des textes et les présenter, et présenter les auteurs. Et finalement, lui, on ne va pas tant connaître son opinion. Donc, c'est à la limite d'être l'essai, quoi. Presque, ça devient une anthologie de textes.
Précisant que c'est surtout des textes d'auteurs, quelques autrices, assez lointaines dans le temps, pas plus tard que les années 70. Bon, et puis, non mais lui, je pense qu'il serait pas content qu'on dise que c'est pas un essai. Hein. Je crois que lui, il a l'ambition d'une pensée très complexe et surplombante, etc. Mais nous, on a parfois eu du mal, entre les citations et entre les références, à détecter des signes de pensée réelle. Bon, c'est un peu...
Et il ne nous prenait pas du tout par la main. Enfin, il y a aussi un truc très élitiste de... dès qu'il pouvait y avoir des ponts avec le présent, typiquement, il nous facilitait pas la tâche, quoi.
On peut même dire qu'il omettait les liens logiques entre les différents paragraphes, voire entre les phrases.
Et si on en vient à son écriture, on peut un peu commenter son écriture qui n'est pas du tout facile à lire. C'est-à-dire que c'est des phrases qui font une moitié page.
Ouais. Avec plein de parenthèses.
Plein de parenthèses, plein de digressions au milieu de la phrase.
Plein de subordonnées. Qui, nanana, que, nanana, que.
Tout ça avec un langage assez philosophique, des mots pas forcément simples et sans forcément lien logique entre les phrases. Comment vous dire que c'était vraiment pas une tâche facile? D'où l'envie aussi, maintenant qu'on a réussi à le lire, d'en rendre un peu compte et pouvoir aider peut-être d'autres personnes.
Ah oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui a motivé notre venue ce soir. On s'est dit, ce livre est apparemment un succès. On pense à toutes les personnes qui ont essayé de le lire ou qui l'ont lu dans la souffrance et...
ou qui l'ont acheté et qui ne savent pas encore ce qui les attend.
On s'est dit, puisqu'on a souffert aussi, mais ensemble, ce qui était pas mal quand même, on va vous dire un peu ce qu'on a compris, ce qu'on a saisi quand même d'intéressant, parce que bon, voilà, on a commencé par une critique un peu acerbe, mais on a quand même trouvé des choses intéressantes dans le livre, et c'est un peu ce qu'on va vous conter à partir de maintenant.
Si je devais juste résumer cet aspect, enfin le bouquin en général, je crois que là, tout à l'heure, je lisais que la maison d'édition, il se présente comme éditant de la littérature philosophique, et je crois que ça correspond un peu mieux peut-être à ce qu'on pouvait attendre quand on lisait la quatrième de couverture. Même si, pour ce qui est de la littérature, pour moi, il n'y a pas de talent littéraire.
Oui. Et du coup, oui, non
c'est
seulement
c'est... C'est plutôt la littérature dans le sens de difficile à comprendre.
Non seulement c'est mal écrit, mais aussi le public visé, clairement pas. Hein, le grand public, c'est assez pointu en termes de références philosophiques, de réflexions philosophiques, je trouvais.
Bon, ça, après, c'est son choix et on décide de son public cible, c'est vrai, mais c'est plutôt par rapport... Enfin, c'est aussi par rapport aux ambitions, par rapport aux résultats concrets du livre qu'il y a pour moi quelque chose d'un peu moins pardonnable, en fait.
Oui.
Parce que...
Mais je trouve aussi comment la maison d'édition présente le livre. On dirait que c'est un livre grand public, quand même. La couverture est assez soignée, assez attrape-œil. Le titre aussi. La quatrième de couverture aussi. On dirait qu'on va tout comprendre. Mais peut-être qu'on peut
oui,
passer,
non, vous savez ce qu'on a oublié de faire. On a oublié de faire un truc très important, c'est de lire la citation de remerciement.
Ah, oui.
Oui, parce que en fait, on a découvert la page la ligne la plus importante du livre, que l'auteur remercie son éditrice.
Alors, il faut juste que je le retrouve parce que moi, j'ai jamais.
Ah, qui est-ce qui l'avait trouvé?
C'est derrière.
Ah, d'accord. Super.
Juste avant, monsieur, je le lis.
Eh ben, oui.
Du coup, dans les remerciements à la fin, il dit toute ma reconnaissance à ma camarade Rosie Varenne aux éditions Verso pour son travail éditorial minutieux sur le manuscrit et ses courageuses initiatives pour limiter les circonvolutions de ma prose.
Voilà, donc une minute de silence pour son éditrice. Parce que, vu ce qu'on a vécu ce week-end, et merci à elle.
D'ailleurs, on n'a pas dit, mais en fait, c'est un livre qu'on a arpenté, c'est-à-dire qu'on l'a déchiré et on en a chacune lu environ 50 pages. Mais tout d'abord, on a lu à voix haute l'introduction à l'édition française, qui était difficile à lire à l'image de tout le livre. Mais un point nous a retenu notre attention en particulier, c'était celui du pessimisme qu'il dénonce dans le fascisme, parce que c'est un pessimisme racial, de fin de la civilisation blanche, etc. Mais il attirait notre attention sur l'importance, peut-être pour la gauche, d'essayer de se réapproprier ce pessimisme. Il dit « pour faire de ce désespoir une passion virulente, scintillante et créative ». Donc forcément, nous, notre pessimisme, il ne serait pas de pleurer la civilisation blanche, il se situerait ailleurs. Mais on a un peu discuté de okay, comment on pourrait en faire une force, nous, peut-être du côté de l'antifascisme. Voilà.
Et donc là, on pensait présenter les chapitres qu'on a lus chacune pour essayer de rendre compte un peu ce qui nous a semblé intéressant, enfin essayer de résumer de manière claire ce qu'on a compris de ces chapitres et voir justement ce qui est un peu intéressant.
Et on s'est dit que ce serait à la fois ce qu'on a compris, mais qu'on allait essayer d'être très très synthétique, parce qu'on ne veut pas vous prendre trop de temps.
D'ailleurs, moi j'espère que ça sera clair, parce que essayer de synthétiser son propos, c'est pas forcément simple.
Mais ce qui était très chouette, c'est de faire ça de nouveau, c'était de le faire ensemble et de se soutenir là-dedans et de se marrer et puis de pouvoir s'énerver aussi ensemble. Moi, je voudrais juste parler en quelques mots encore de la préface, donc qui est après l'introduction à l'édition française, parce que je me suis dit en la relisant, bon, peut-être qu'il nous indique quand même un peu ce qu'il veut faire et que peut-être que c'était aussi un jeu de notre esprit ou nos projections que de croire que ce livre allait nous éclairer comme un phare dans la nuit, quoi. Mais il dit que son livre, c'est une contribution à la discussion collective sur le cycle politique réactionnaire que nous traversons. Bon, c'est déjà pas mal, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques années, on n'était pas d'accord. Enfin, dans mon milieu d'extrême-gauche, on n'était pas toutes d'accord qu'on était en train de traverser un cycle politique réactionnaire. Il dit qu'il va se baser sur les matériaux constitués par les théories du fascisme produites au cours du XXe siècle. Et il a l'ambition de remettre en cause des automatismes, des lieux communs et des écueils sur le débat sur la notion de fascisme. Voilà. Donc, en gros, il va nous expliquer ce que tout le monde fait qu'il ne faut pas faire parce que lui, il a compris. Voilà. Je suis en train de laisser passer le temps parce qu'en fait, c'est à moi de commencer. C'est moi qui ai lu les deux premiers chapitres. OK. Donc, le premier chapitre, il s'appelle « Hors délai ». Et du coup, il parle l'inactualité, en quelque sorte, du fascisme d'aujourd'hui, mais aussi de l'inactualité du fascisme de l'époque, c'est-à-dire que ce n'était pas des solutions. Je crois que c'est un peu pour ça qu'il parle de hors délai. Tout en disant, donc il reprend l'analyse marxiste un peu traditionnelle, qui est que en fait, le fascisme, c'est la production nécessaire en fait, du capitalisme en crise. Que c'est dû au fait qu'il y a une réduction, enfin, pour le dire en termes simples, qu'il y a une crise du profit et que en fait le capital doit s'accumuler et se concentrer plus et qu'à un moment donné il a besoin du fascisme pour faire ça. Il y a une phrase à la fin que je peux vous citer qui est assez claire, c'est le capitalisme a besoin d'inégalité et le racisme les lui garantit et le fascisme lui met tout en œuvre pour garantir l'inégalité en temps de crise par la violence. Ça, c'est l'analyse un peu classique marxiste. Mais lui, il veut nous parler de choses moins connues. Mais il commence tout d'abord par nous dire que, un peu comme font tous les gens que je lis sur le fascisme là, en ce moment qui ont la cote, ils nous disent d'abord qu'il ne faut pas comparer, parce qu'il faut arrêter de comparer. Bon. Nous, on s'est dit quand même, si on appelle ça du fascisme, c'est en soi une comparaison, hein, parce que le fascisme, c'est un truc qui a eu lieu en Italie dans les années 20, qui qui est née en Italie en 1919. Et voilà, si on utilise ce terme, on est forcément en train de faire une comparaison. Mais bon, voilà, il dit qu'il faut arrêter de comparer bêtement, il faut comparer intelligemment, je pense. Et du coup, il dit que, donc il dit qu'une des différences fondamentales entre le fascisme d'avant et le fascisme d'aujourd'hui, donc le fascisme de l'entre-deux-guerres en gros, c'est qu'il n'y a pas de... Aujourd'hui, il n'y aurait pas de mouvement de masse fasciste et qu'il n'y aurait pas non plus d'utopie de masse fasciste. Voilà. Et ensuite, il parle de deux auteurs qu'il appelle hétérodoxes, c'est-à-dire qui ont théorisé le fascisme, mais d'une façon très, très originale. Ernst Bloch, qui a écrit « Héritage de ce temps », et Georges Bataille, qui a écrit... Attends, je ne me souviens plus du titre. Bon, c'est sur le fascisme aussi. Et les deux développent un concept un peu particulier, mais qui lit entre eux. Bloch, il parle de la non-contemporanéité, c'est-à-dire il dit qu'en fait, dans la société fasciste, genre de l'Allemagne nazie, tout le monde n'est pas fasciste. Et en fait, même si ça répond à une crise sociale de l'époque, à un rapport des moyens de production de cette époque-là, eh ben, y a des tas de gens qui sont dans d'autres fantasmes et dans d'autres réalités, enfin, dans d'autres fantasmes et aussi dans d'autres... oui, c'est vrai, c'est, même s'ils sont influencés parce qu'ils sont dans cette société-là qui est comme ça à ce moment-là, bah, ils sont comme dans des survivances, des archaïsmes qui viennent d'autres époques. Et donc, en fait, Ernst Bloch dit, et là-dedans, dans ces survivances d'autres époques, qui sont des façons de faire, des façons de penser, etc., eh ben, il y a du désir non capitaliste, en fait, de choses qui sont pas intégrables par le capitalisme. Et il dit que c'est ce qui a été capté, notamment, par les fascistes, en fait, par les nazis. Et que ça pouvait pas être capté par les marxistes de l'époque, par le communisme de l'époque, parce que c'était trop irrationnel, en fait. Et quant à lui, Bataille parle d'hétérogénéité, et ça désigne un peu la même genre de chose, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas capitaliste ou pas fasciste à l'intérieur même de cette société-là. Et ensuite, il nous parle du fanatisme, du fascisme, à la fois de l'époque l'époque et d'aujourd'hui. Et il nous dit que c'est un fanatisme en toc, c'est-à-dire que les gens n'y croient pas vraiment, ils font semblant. Voilà. Et il dit que le fascisme agit comme une sorte de psychanalyse inversée, c'est-à-dire qu'on prend tous les problèmes et les conflits intrapsychiques des personnes et toute leur souffrance, et au lieu de la conscientiser, bah, on la rend de moins en moins consciente. Et voilà, on la tourne vers d'autres sujets. Et un des propos les plus importants dans ce chapitre-là, c'est qu'il dit qu'il ne faut surtout pas qu'on réutilise la figure de la classe ouvrière blanche délaissée, parce qu'elle n'existe pas, elle n'existe plus, et que maintenant, il n'y a plus que des groupes qui sont des sériels, c'est-à-dire des accumulations d'individus atomisés, mais qu'il n'y a plus de conscience de classe. Donc, en parlant de la classe ouvrière blanche délaissée, on fait le jeu du fascisme, parce que c'est un de ses fantasmes. Et ensuite, le deuxième chapitre qui s'appelle « Fascisme racial », je vais un peu vite parce que je prends trop de temps. « Fascisme racial », c'est un passage beaucoup moins philosophique, où il est beaucoup plus clair, où il parle d'auteurs en fait, radicaux noirs des États-Unis, notamment, surtout Angela Davis et George Jackson. Et il parle du fait que le fascisme, il faut pas le comprendre. Enfin, il faut se rendre compte qu'en fait, d'un point de vue phénoménologique, que le fascisme, ça dépend de qui tu es, à quel moment et dans quel endroit. Et que donc, du coup, nos démocraties libérales, par exemple, ou aux États-Unis depuis très longtemps, avant la démocratie libérale, bah, en fait, il y a des gens pour qui c'est le fascisme, et notamment, par exemple, les noirs qui sont en prison. Voilà. Et que aussi, ce fascisme-là, il peut être arrivé avant une crise, et il dit que c'est un peu le cas maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait en crise, le capitalisme n'est pas tout à fait en train de s'effondrer, mais qu'il arrive de façon préventive, ce qui peut nourrir avec joie notre pessimisme. Voilà.
Dans le chapitre suivant, il va un peu revenir sur les liens du capitalisme et du fascisme dont a un peu parlé Garot tout à l'heure, et notamment sur le rôle de l'État dans la montée, dans une forme de fascisation. Et la notion sur laquelle il passe beaucoup de temps, c'est celle de l'anti-État, qui est en fait une dynamique selon laquelle si une force qui tend vers le fascisme est au pouvoir, une dynamique qui va faire en sorte d'aller vers un démantèlement de l'État, c'est-à-dire de lui retirer un maximum de ses rôles typiquement de protection sociale ou en privatisant beaucoup de choses et en supprimant ces volets-là. Et par contre, en renforçant son rôle répressif avec typiquement l'armée et tout ça en accompagnant en fait l'enrichissement de grands industriels ou voilà, des classes dominantes. Et cette dynamique-là vers un anti-État, donc ça nourrit des crises sociales, économiques, etc., qu'il nomme dans une citation un chaos favorisé par le néolibéralisme. Et ensuite, il explique un peu une glissade qui passe de la liberté de marché à des politiques d'austérité, puis petit à petit un autoritarisme. Et ce qu'il explique bien, c'est que dans une situation comme ça de crise sociale, pour que le gouvernement se maintienne, un peu la seule option qu'il a, c'est de recourir à des politiques autoritaires et donc de se maintenir par la force. Parce que le seul horizon que ce gouvernement apporte, c'est de la baisse de niveau de vie, de l'austérité, des inégalités. Et donc, ce n'est pas du tout acceptable. Et c'est là que l'autoritarisme arrive. Et ça, c'était le grand sujet de ce chapitre-là.
Moi, je vais présenter les chapitres 4 et 5, et peut-être juste pour dire aussi que les chapitres étaient assez aussi décousus entre eux, ce qui fait que l'arpentage était aussi plus simple, parce qu'on n'avait pas forcément besoin des autres chapitres pour les comprendre, mais aussi, du coup, il n'y a pas forcément de lien entre les chapitres, comme vous pouvez actuellement l'entendre. Enfin, il y a un petit lien, mais à chaque fois, il s'intéresse à une thématique précise. Et moi, justement, le chapitre 4 que j'ai lu, il va s'intéresser au lien entre fascisme et capitalisme, et en utilisant la notion d'abstraction. Donc, étant donné que je vais essayer d'être brève, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'abstraction, mais l'idée, c'est que le capitalisme est hyper opaque, c'est quelque chose d'assez opaque, d'abstrait, et qui crée un contexte d'aveuglement, d'angoisse, de vertige, ce qu'on pourrait aussi appeler d'aliénation. Et cette abstraction que le capitalisme crée, le fascisme, il s'en nourrit. C'est un peu ça le propos du chapitre. Et il s'en nourrit, mais en fait, il s'en nourrit en essayant de lutter contre cette abstraction. Et donc, le fascisme pointe du doigt cette abstraction en mettant en avant des choses qu'il va penser plus concrètes, comme la race, le sang ou encore l'esprit. Et donc, ça, il crée un peu un déplacement de cette angoisse qui provient en fait du capitalisme, et il va la déplacer et la résoudre en mettant en avant des choses qu'il considère plus concrètes, le sang, la race, l'esprit. Donc ça, c'est un peu le chapitre 4 en résumé. Et donc le chapitre 5, c'était plutôt le lien entre le fascisme et le temps, et donc sous toutes ses formes. Donc le temps dans lequel s'inscrit le fascisme, mais aussi le fascisme, comment le fascisme considère le temps. Et là, on revient un peu à ce que Garot déjà expliquait dans le chapitre 1, c'est-à-dire que le fascisme se nourrit de plein de temporalités différentes, d'une temporalité archaïque, mais aussi d'une temporalité moderne, ce qui crée au sein du fascisme un rapport conservateur-révolutionnaire, ou encore appelé modernisme réactionnaire, c'est-à-dire qu'il va vouloir un nouveau commencement, mais qui est en fait un retour dans le passé. Et donc, il y aura une importance de la répétition au sein du fascisme, donc où on essaie de répéter le passé et qui crée en fait un certain destin pour les fascistes. Par exemple, le destin héroïque de reproduire des guerres, de mourir dans la guerre. Et cette répétition mise en avant, revient dans le fascisme, l'auteur la lie à la répétition du capitalisme qui est analysée par Marx, c'est-à-dire la répétition de la souveraineté absolue qui revient de manière répétitive dans le capitalisme à cause des crises dans l'accumulation du capital. Et que donc, en fait, le fascisme qui critique l'abstraction du capitalisme qui critique le capitalisme, en fait, est intrinsèquement liée au capitalisme. C'est un capitalisme sans capitalisme. Ou encore, pour clarifier, c'est un capitalisme qui renie la temporalité capitaliste. Alors qu'en fait, il s'inscrit complètement dedans. Et donc, il utilise cette incohérence comme instrument. Et à la toute fin de ce chapitre, l'auteur s'intéresse un peu plus au fascisme de notre époque. Et comme l'a déjà dit Garot, il répète que c'est un peu une contre-réforme préventive dans le sens où justement il n'y a pas de menace concrète contre le capitalisme. Il n'y a actuellement pas de révolution communiste qui est sur le point d'arriver. Et que donc là, le fascisme s'insère dans des temporalités moins dans l'urgence, comme ça a pu être le cas dans... Le fascisme s'insère dans des temporalités moins urgentes, comme ça a pu être le cas dans les années 30. Et donc, il est plus lent. Et il prend plus de temps.
Et j'avais la dernière partie du livre qui est le chapitre 6, les idées sans mots. Donc là, il parle de la culture de droite qui est pour lui toutes les idées de droite qui infusent dans notre imaginaire. Il parle de la religion de la mort qui est selon lui, la conception de l'histoire comme ayant pour centre l'expérience de la mort et la défaite d'un héros vaincu. Il parle aussi du passé qui est glorifié, mais qui en fait est transformé en une bouillie homogène et qui permet aux fascistes de l'utiliser à leur convenance. Voilà. Et enfin, il étudie le langage de la droite. Et il analyse cette langue comme une langue qui est rationnellement incompréhensible, mais qui doit être plutôt appréhendée émotionnellement, parce qu'elle donne en fait le plaisir de ne pas faire l'effort de penser. En fait, c'est un langage clair qui ne transmet que l'obscur. Voilà. Et le dernier chapitre du livre, c'est « Les cathédrales de la misère érotique ». Qui s'appuie sur Foucault et son concept de biopolitique. Donc Foucault a par exemple dû désérotiser le fascisme et le nazisme, puisqu'il y a eu des stars qui parlaient d'Hitler comme d'une star et arboraient des croix gammées. Il reconnaît que cette érotisation, elle vient du fait que sous le nazisme, tout le monde, entre guillemets, pouvait devenir... SS et donc accéder au pouvoir. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire pas mal de personnes, quoi. Et en fait, c'était un pouvoir qui pouvait faire fantasmer. Il évoque aussi la masculinité dans ce chapitre. Et là, c'est plus contemporain. En fait, il nous dit le fascisme à l'heure actuelle repose vraiment sur une réparation de la masculinité, la nostalgie de la famille hétéronormative. Et en fait, chez les fascistes, il y a une perte du fantasme ou un fantasme de la perte de l'hypermasculinité occidentale. Cette hypermasculinité occidentale, dans un contexte d'histoire coloniale, on peut la décrire comme un vol de jouissance de vol. Voilà. Et le livre se finit avec une conclusion qui reprend un peu les points essentiels du recueil. Et surtout, qui dit, pour être antifasciste, soyez anticapitaliste.
Ce qui est en vrai, oui, moi, quand j'ai fini le livre, quand on a fini le reportage, c'est ce que je me disais, c'est que l'idée, un peu, c'est de dire que le fascisme est intrinsèque au capitalisme, finalement.
Oui. Mais d'ailleurs, il ne se cache pas que c'est sa conclusion et que c'est... Bon, après, comme on était un petit peu énervé hier soir, on a discuté encore du titre. On s'est dit, mais quand même, pourquoi ? Alors déjà, il ne dit pas vraiment pourquoi il appelle ça fascisme tardif. Bon, il dit que c'est en référence au capitalisme tardif, qui est une façon de décrire le capitalisme dans lequel on est aujourd'hui, qui est très différent de celui, par exemple, de l'analyse de Marx, où par exemple, il y a la mondialisation, etc. Mais bon, lui, il ne donne pas de détails là-dessus.
Voilà, il sort ce terme comme titre, Alors que justement, il y a plein de termes de nos jours qui circulent sur le fascisme. Et donc, introduire un nouveau terme, on s'attendrait à ce qu'il il passe un tout petit peu de temps pour le défendre et expliquer pourquoi il en sort un nouveau.
Oui, parce que lui, il a besoin de se justifier, hein, c'est pas comme nous.
Et puis, en fait, ce qui est étonnant aussi, c'est que donc, ça s'appelle fascisme tardif, donc on se dit que ça parle du fascisme de maintenant. Finalement, il ne parle que très peu du fascisme de maintenant, et donc c'est étonnant comme titre.
Et on est même allé jusqu'à se dire, en plus, qu'est-ce que ça véhicule, ce terme tardif? Il y a une notion de fin du monde, et donc du coup, est-ce que ce ne serait pas un peu fasciste? Ok. On a fini? Voilà, c'est la fin de ce live ce soir. On voulait vous dire qu'il y aura plus, il y aura d'autres lives en fait, le 9 février puis le 9 mars à la même heure sur le même site internet. Et aussi, on voulait vous dire que le 16 janvier 2025, il y a une femme qui avait été assassinée à Bienne et que donc il y aura un rassemblement le 16 janvier. Et ce rassemblement, il est à 18h30, rue des Marchandises, rue de Morat. À Bienne. Bonne soirée.
Sans avoir à demander la permission, comme elle est belle vue d'en face.